moi c'est Benjamin. Je viens de Bordeaux, j'ai 28 ans. Je viens d'arriver en première année de l'Institut biblique et pastoral baptiste à Lagrange, donc l'institut que font Michael et Noémie, et par lequel est passé aussi Jean et d'autres personnes. Je vais vous raconter aujourd'hui comment je me suis retrouvé à offrir ma vie à Christ. Et j'espère vraiment que je vais prier.
Éternel, je te remercie pour cette possibilité que tu nous donnes de nous réunir ensemble et de communier ensemble ce matin. Je te remercie de diriger ce moment et je veux te demander de me donner la sagesse dans mon témoignage, que je puisse adapter ce que j'ai préparé à ce que toi tu veux que je dise, et je veux te demander de m'aider à faire en sorte que chaque âme ce matin ici présente reçoive d'une manière ou d'une autre une parole qui lui est destinée. Je veux te demander de m'aider à m'effacer et à te laisser toute la place dans cet témoignage. Amen.
Donc pendant très longtemps, je me suis demandé si je devais raconter mon témoignage en partant de ma première naissance, il y a 28 ans, ou de ma nouvelle naissance, en fait. Et je me suis dit que Yah, lui, il me connaît depuis le début, et il m'aime depuis le début. Et en même temps, j'ai pas envie de vous raconter ma vie avant ma conversion, parce que j'ai un peu honte. Mais je souhaite qu'il m'utilise afin que vous puissiez voir sa grâce à travers mon témoignage. Et je pense du coup que raconter ma vie avant peut permettre de voir la transformation qu'il a opérée en moi. Et je veux surtout que vous sachiez, qui que vous soyez, que Yahweh peut transformer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et comme il le veut. Donc la vérité réside dans la parole, pas dans mon expérience ou dans d'autres expériences. Mais je veux aussi vous raconter ça pour que si un jour il vous arrive d'être freiné, dans l'engagement envers une âme, des fois on peut être limité suivant ce qu'on vit. On sait des choses intellectuellement, mais quand on vit avec le cœur, des fois nos pensées nous traversent. On se dit cette personne est trop loin ou cette personne est trop méchante. Et des fois on ne croit pas à 100% qu'on puisse être sauvé. Donc si jamais un jour ça arrive à quelqu'un, j'aimerais qu'il se souvienne de mon témoignage dans le sens où Dieu, on ne peut pas le limiter, il peut transformer vraiment n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Donc je suis né dans un foyer assez violent, dans un quartier assez violent. J'ai une enfance très perturbée, j'ai été suivi pour problèmes psychomoteurs, psychiatriques. J'étais violent envers moi-même, c'était compliqué pour dormir aussi. J'avais une berceuse chez moi que ma mère me faisait souvent écouter, c'était une prière vaudou adressée au père du vent. J'ai passé les 20 premières années de ma vie à essayer de la détruire. J'étais persuadé d'avoir un démon en moi. Je pensais être un démon quand j'étais petit. Je suis tombé dans la drogue à 10 ans avec de la colarustine, des solvants et tout ce qui est bétadine, ventoline. Puis entre le CM2 et la 6e, je me suis mis à fumer la cigarette. À cette époque-là, je mentais, je volais, j'essayais de mettre le feu aussi, je détruisais des voitures de police. C'est aussi à cette époque-là que je suis tombé dans la pornographie, vers 10 ans, après avoir trouvé des livres érotiques dans une cage d'escalier. À 14 ans, je me scarifiais, j'entretenais une moralité par le biais de la pornographie et je commençais à pratiquer l'occultisme à travers plusieurs livres kabbalistiques que j'avais trouvés dans la bibliothèque familiale. Et ensuite, par le biais d'enseignements rosicruciens sur Internet, c'est une secte. À 14 ans, un ami m'a offert mon premier micro. Depuis que j'avais l'âge de 8 ans, mon rêve, c'était de devenir rappeur. J'écrivais déjà dans mon coin. Donc il m'a offert mon premier micro, mais aussi mon premier joint de cannabis. Et j'ai utilisé les deux. Je suis devenu accro, puis à 15 ans, j'ai fait mon premier concert. Et pour mon premier concert, je suis aussi tombé dans l'alcool. Ce qui m'a conduit à me déscolariser. Ma musique était politisée, elle était marxiste, elle était citoyenne, activiste, et elle se réclamait du mouvement hip-hop. Donc j'ai tout mis là-dedans, c'était mon dieu. Je vivais que pour ça, entièrement pour ça, 24 heures sur 24. À 16 ans, j'étais gravement alcoolique, je buvais de l'alcool fort dès le réveil. Je pensais aimer les gens, j'aimais les gens, je voulais les aider. Mais je pense qu'en fait, J'étais rempli de haine. Je détestais la police, je détestais mon pays, je détestais les étudiants et je détestais tous ceux qui faisaient pas partie de ma petite case en fait. À 18 ans, je vendais du cannabis et je commençais à tomber dans la mythomanie. Puis je me suis mis à étudier l'astrologie psychologique dans mon coin et je m'en suis servi pour manipuler quelques personnes. Donc à 22 ans, je voulais me reconstruire. Je me suis rendu compte que je me faisais du mal et j'avais soif vraiment d'arriver à quelque chose de positif et de constructif. Mais j'y arrivais pas. Quoi que je fasse, j'y arrivais pas et je continuais à me détruire. À 24 ans, je tombais malade. Je pouvais plus utiliser ma voix. Pendant un an, j'ai plus pu chanter. Et du coup, j'ai dû tout arrêter. Après ça, je me suis remis à chanter en studio, chez moi. Mais les concerts, c'était plus possible. Je l'ai très 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 mal vécu parce que c'était vraiment mon Dieu et tout tournait absolument autour de ça. À 26 ans, j'écrivais un refrain dans lequel je demandais à Jésus de m'aider. Ça faisait « Oh Jésus, je t'en prie, donne-moi ta force pour le bagne. Hey. » Quelque chose comme ça. Et je chantais en boucle pendant des mois. Je sais pas pourquoi. Mon producteur était sympathisant témoin de Jéhovah. Donc il n'était pas témoin de Jéhovah, mais il recevait des enseignements. Et il a dit quelques fois, de temps en temps, à côté de moi, le nom de Jésus. Et peut-être que Dieu a mis quelqu'un qui citait ce nom Jésus auprès de moi pour que je me tourne vers Jésus et pas vers autre chose, je sais pas. Mais voilà, j'ai chanté ça, je sais pas pourquoi.
Tu chantais quoi ? C'était quoi la dernière phrase ?
C'est Jésus, je t'en prie, donne-moi ta force pour bannir le péché, pour bannir Satan. Ouais. J'ai chanté ça, voilà, en boucle. Et voilà. Je pense que... En fait, depuis tout petit, je ressentais un manque vraiment terrible. Vraiment immense, effroyable. Et je pense que tout ce que je viens de vous raconter, c'était pour combler ça, en fait. Je recherchais à vivre, en fait. Je me sentais mort. Et du coup, je cherchais à vivre. Et ça fonctionnait pas. Ça n'a absolument pas fonctionné. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et ça va faire 2 ans, le 23 octobre, que j'ai accepté l'amour et la souveraineté de notre Seigneur dans ma vie. Je suis heureux de pouvoir vous dire que Dieu est à l'œuvre. Et qu'il a commencé en moi un long processus et incroyable processus de régénération. Donc le 22 octobre 2016, peut-être au moment le plus misérable de ma vie, je me suis couché et au cours de la nuit, j'ai fait un songe dans lequel Christ s'est révélé à moi. Si je dois vous traduire ce songe en un mot, je peux vous dire autorité, juste le mot autorité. Au réveil, le lendemain matin, je me suis levé, mais je me suis levé au sens évangélique du terme. J'ai accepté ma dégénérescence humaine, j'ai vu tout mon péché, mon incapacité à le transcender de moi-même. Du coup, j'ai voulu me tourner vers Dieu, ou la conception que j'avais de Dieu, par la prière. Mais à partir de là, quand j'ai voulu prier Dieu, j'ai pris conscience de ma désobéissance envers lui, et je me suis retrouvé tellement honteux et gêné que je l'ai imploré de m'aider à changer. Je lui ai dit, je t'en prie, je te connais pas, mais aide-moi, change-moi profondément, je veux te connaître, mais je peux pas, je suis trop sale. Il m'a délivré de l'alcool, du cannabis, de l'angoisse, des cauchemars, de la dispute, de la colère, de beaucoup de systèmes de pensée néfastes qui étaient dans mon cœur. J'ai arrêté de ressasser, de projeter, des troubles de l'humeur sont partis. J'étais très 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 égocentrique, ça s'est brisé. Et j'ai engagé une lutte contre la pornographie et tout ce qu'elle a pu détruire en moi de ma vision et de la sexualité et de la femme. J'ai été délivré de ma dépendance au divertissement, aux jeux vidéo, aux séries télé. Et finalement, je me suis mis à lire la Bible. Donc quand je dis que Yahweh m'a délivré de ces choses, je suis tenté par ces choses. C'est comme des oiseaux qui passent au-dessus de ma tête et qui veulent se poser. Mais en Dieu et par le moyen de Jésus-Christ, je les fais s'en aller, je ne leur permets pas de se poser. J'ai retrouvé un rythme de vie à partir de ce moment-là, du temps, un cœur et un cerveau bien plus léger. Et je me suis mis à avoir moins peur de la vie, parce que j'étais quelqu'un de très peureux, de très enfermé, très refermé sur moi-même. Et ça a eu des conséquences sur mes choix, du coup, de pouvoir commencer à vivre, en fait. Donc, j'aimerais vous lire un passage dans 1 Pierre. Pour illustrer ça. 'Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et je souhaite vous lire aussi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci à Dieu pour ça. Du coup, Dieu m'a fait passer par l'isolement. Il m'a mis à part, il m'a sorti de mon cadre de vie, de ce que je connaissais, de ma zone de confort. Donc j'ai quitté mon travail et je suis parti dans une ferme pour apprendre à vivre en autonomie au niveau construction et alimentation. Là-bas, j'ai fait la rencontre de 21 brebis et de 2 béliers. Et c'était une belle rencontre. J'ai passé du temps avec des chevaux, avec des brebis, et ça m'a beaucoup enseigné concernant beaucoup de lacunes et de faiblesses que j'avais. Ça a mis en lumière mes manques d'humilité, d'amour, de compassion et d'autres choses. J'ai décidé d'arrêter complètement mes activités musicales, qui étaient de toute façon à moitié arrêtées. Et j'avais un album qui allait sortir, en fait, que j'avais préparé des années et des années auparavant, et qui était en travail d'arrangement, de mixage, tout ça. Et j'ai stoppé la sortie et j'ai dit « Seigneur, ça a tellement volé ma vie, ça a tellement mis d'orgueil en moi et tout tournait tellement autour de ça que je veux te le rendre, je ne veux plus. » Et du coup, j'ai tout stoppé et fini, voilà. Et j'ai décidé de devenir berger. Donc j'ai eu un coup de cœur dans ma relation avec ces brebis et j'ai pensé que Jésus étant mon berger, le fait d'exercer le métier de berger pourrait me permettre de mieux le connaître, premièrement, et puis aussi d'apprendre les qualités nécessaires à ma vie comme son disciple. J'étais dans mon coin tout seul, je lisais ma Bible, pas énormément, et je faisais comme je pouvais, comme Dieu me permettait de faire. Je me suis dit que c'était là l'appel que Dieu me réservait, et parce que quand je suis né de nouveau, en m'identifiant à sa mort et à sa résurrection, j'ai décidé de passer le restant de ma vie à le servir, mais je ne savais pas comment. Je me suis dit que ça m'aiderait à savoir comment le servir. À partir de ce moment où je me suis réveillé complètement transformé, ce 23 octobre 2016, les 6 premiers mois de ma marche, qui va durer toute ma vie sur ce chemin qu'est Jésus et qui mène au Père, c'est un peu comme du petit lait que Dieu me donnait, même voir le premier lait qu'on donne aux brebis. C'est comme s'il m'avait nourri au biberon, comme s'il avait changé mes couches, et il m'a nourri à travers la prière et la lecture de la Bible. Donc j'ai commencé à créer une relation de roi à serviteur, de créateur à créature, et de père à enfant. C'est alors qu'il m'a pris la main, qu'il m'a aidé à faire mes premiers pas, tout en me faisant avancer avec amour, avec douceur et avec patience. Je remercie énormément pour ça. Je suis parti rejoindre une grande bergerie pour continuer d'apprendre au contact de Dieu et des brebis. Il y avait à peu près 600 bêtes. Et là, j'avais plus rien, j'avais tout laissé. Tout ce que j'avais, c'était dans un sac. Et je voulais juste devenir berger. Je me suis retrouvé dans cette bergerie qui était en pleine faillite. Ils avaient un an pour éviter la faim, avec un couple de personnes très âgées, complètement dépassées, qui étaient en train de baisser les bras. Les brebis étaient malades, elles étaient négligées, et moi j'avais pas d'expérience, j'avais une inexpérience totale, je savais pas comment faire en fait, j'étais un peu perdu. Donc c'est pendant cette expérience et en parallèle de mes lectures bibliques le soir que j'ai commencé à instaurer une relation avec Dieu, où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je lui fasse confiance, en fait. Et j'ai été richement béni lors de ce séjour. Je me suis retrouvé seul, dépassé, j'essayais de gérer comme je pouvais. Il y a des agneaux qui mouraient dans mes bras. J'ai dû me confronter à la violence et à la colère qui étaient encore en moi. Et à plusieurs reprises, j'ai failli faire acte de violence envers des brebis et des agneaux, envahi par la frustration et par mon manque de capacité, en fait. Petit à petit, j'ai appris à contrôler ces poussées de colère et je m'en suis défait. Enfin, Dieu m'a permis de m'en défaire. Et petit à petit, j'ai appris à me laisser guider par Dieu et pas par les circonstances. C'est un apprentissage qui va durer toute ma vie, bien sûr. Je suis resté juste un mois et je suis parti dans les Pyrénées pour m'occuper d'un troupeau de 200 bêtes et pour chercher une école de berger pour la rentrée. On était fin mars, à ce moment-là, 2017. Tout ça, ce que je vous ai raconté depuis le début, ça s'est passé en 7 mois. Donc c'était très court,
Mais j'ai vécu tellement de choses dans ma relation à Ya, tellement de choses nouvelles que je connaissais pas, que ça me paraît avoir duré des années, et c'est vraiment le moment de ma vie qui me paraît le plus palpable, en fait. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de très essentiel à cet édifice qui prenait place dans ma vie. C'était la communion avec les frères et sœurs. J'avais pas de communion avec des frères et des sœurs. Tous les gens que je croisais, en général, étaient en colère contre Dieu. Et dans ma lecture de la Bible, en fait, je lisais que Dieu m'avait pas fait de manière à ce que je me débrouille seul, mais de manière à ce que je sois dépendant de mes frères et sœurs. Je suis tombé sur ce verset en Actes 2:42 qui disait « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion entre frères et sœurs, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que ce que Dieu me demandait, c'était ça en fait. Donc je me suis demandé où est-ce que je pouvais bien trouver des frères et des sœurs. Pour moi, c'était clair. C'était pas dans la religion, ni dans les sectes. Pendant les 2 mois que j'ai passé à partir de ma conversion, avant de quitter chez moi et de partir dans ces fermes, pendant 2 mois, je me suis demandé si je devais aller vers l'église catholique, qui est l'église que tout le monde connaît, et les témoins de Jéhovah, vu que j'avais un accès possible avec eux, de par mon producteur. J'étais allé 2-3 fois à l'église catholique, une adoration, un culte, une permanence. Je le sentais pas, et à ce moment-là, en fait, pour moi, tout ce qui était bâtiment, c'était l'homme et pas Dieu. Et du coup, je savais pas comment faire. Je pensais que j'avais des frères et des sœurs un peu partout, mais je savais pas comment les trouver. Et j'ai prié, du coup. Je me suis arrêté, j'ai imploré Dieu, je lui ai demandé de m'aider à trouver des frères et sœurs avec qui je pourrais partager ma foi naissante. J'ai fini par me retrouver, après ça, du 31 mars au 2 avril, pendant 3 jours, au sein d'une petite assemblée de chrétiens à Dunkerque, qui se réunissaient dans leur maison. Moi, je vous épargne comment c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Ils se réunissaient dans leur maison, priaient, lisaient et étudiaient la parole, et s'exhortaient les uns les autres et communiaient ensemble. Pour la première fois, j'ai prié Dieu avec des frères et des sœurs, et pas tout seul. Et j'ai expérimenté la promesse comme quoi, là où Jésus se trouve, enfin là où on se trouve 2 ou 3 en son nom, Jésus se trouve. La Bible me dit de prier Dieu dans le secret, elle me dit aussi que Dieu veut qu'on s'unisse d'une seule voix, d'un seul corps, Christ est la tête, et nous sommes les membres. Chacun différent, mais chacun au service de l'autre et tous au service de Christ. Et ça passe par le fait de prier les uns pour les autres et de louer Dieu ensemble. De manière unie, donc j'ai expérimenté ça. C'était une joie. Pendant ces 3 jours, j'avais pas prévu ça, mais je suis passé par les eaux du baptême, dans une baignoire. Et c'est alors que l'eau était chaude. C'est alors que, selon la Bible, j'ai pris position devant Dieu, devant les anges, devant Satan et devant les hommes, quant à mon désir de mourir à moi-même et de plus vivre pour moi, mais quant à mon désir de revivre en Christ et de ne plus vivre que pour lui. J'ai pas pu ensuite continuer la pratique de la cigarette, parce que je fumais encore la cigarette, et Dieu, plein de miséricorde, à partir de ce moment où j'ai été baptisé, j'ai eu un cadeau de baptême, il m'a aidé à me sevrer de cette drogue, et ce fut une joie, une légèreté, un bonheur d'arrêter de fumer. C'était magnifique. Puis j'ai continué ma route, je suis retourné à mes brebis et puis avec mon désir de devenir berger. Et ça nous amène en fin mai 2017. Donc entre fin mars et fin mai, je suis parti un week-end en fin avril dans une église de maison à Orléans, puis à Chartres, puis à Colombes. Ces premiers moments passés avec d'autres disciples fut une telle joie et un tel bonheur pour moi que j'avais plus qu'une idée en tête, c'était de partager ma foi avec des frères et sœurs. Donc à ce moment-là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me trouver des frères et sœurs tournés vers lui, puis j'ai ressenti le besoin de lui consacrer plus de temps. Donc ma vie d'éleveur ou de berger, ça prenait beaucoup de temps, et je devais tout le temps être attentif et concentré en fait. Donc j'avais pas vraiment le temps tant que ça de lire la parole, d'étudier la parole. Et ce retour à la nature, le fait de contempler cette nature, c'était pour moi une manière de me reconnecter en fait au Créateur après tout ce temps où j'avais voulu vivre sans lui. Donc je suis revenu à Bordeaux, dans ma ville, pour y passer une semaine, pour voir ma famille, mes amis. Et à ce moment-là, avant d'arriver sur Bordeaux, j'ai cherché le contact d'une communauté locale. Et j'en ai trouvé une sur Florac, avec un arrière-plan baptiste. Parce que les églises de maison dans lesquelles j'étais passé, c'était des églises qui avaient connu des dérives sectaires pentecôtistes, où même Jésus était le père dans leur église. Et il y avait eu beaucoup de problèmes, des menaces de mort, plein de problèmes, et ils s'étaient enfuis en fait, et ils essayaient de se reconstruire en fait. Donc j'ai trouvé cette communauté à Bordeaux, à Florac. Les prédications des pasteurs étaient présentes sur leur site internet, donc je suis d'abord allé les écouter. J'ai vu que la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ étaient prêchés, et je me suis dit que je pourrais profiter de cette semaine pour passer le maximum de temps avec eux dans la communion. Et un lundi soir, lors d'une réunion de prière, je suis allé les rejoindre. Donc on était 5, et on a prié ensemble. Et à ce moment-là, c'est la même semaine en fait, où j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de la prière dans ma relation avec Dieu. J'ai pris conscience que depuis le début, Dieu avait toujours répondu à mes prières, depuis bien avant ma conversion. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ce que je chantais pendant des mois, avant qu'il vienne me bouger. Et à ce moment-là aussi, je me suis intéressé à la vie de George Muller. C'est un homme qui a passé énormément de temps à genoux dans la prière. Et à ce moment-là, il y a 3 points concernant ma vie chrétienne qui se sont révélés importants à moi. C'était la prière, la formation et la mission. Et pendant cette semaine que j'ai passée à Florac, je me suis aperçu que le pasteur Florent Moribaud, qui a fait cet institut aussi à Algrange, accordait énormément d'importance, entre autres, à ces 3 sujets dans son ministère pastoral, donc la prière, la formation, la mission. Et la semaine s'est transformée en un mois. Pendant ce mois, et pendant mes lectures, j'ai pris conscience qu'il était vraiment important que je vive ma relation avec Dieu de manière partagée, avec mes frères et sœurs et pas tout seul, que c'était nécessaire. À ce moment-là, j'ai reçu une offre d'une ferme dans laquelle j'avais passé 2 mois, celle où il y avait 21 brebis et 2 béliers. C'était pas les 2 mois les plus faciles de ma vie, mais c'était les plus beaux de ce que j'avais connu dans ma vie. J'aimais les gens que j'y avais rencontrés, et ils me proposaient de m'embaucher pour m'occuper des animaux, chevaux, brebis, cochons, et pour les aider dans l'élaboration d'un grand projet qui mélangeait autonomie et aide aux sans-abri et aux gens qui sortaient de prison. J'avais suivi toute l'élaboration et les démarches du projet. Ils étaient en plein dans les rendez-vous et dans la mise en réseau quand j'étais avec eux. Et j'avais prié pour ça, si c'était la volonté de Dieu d'utiliser ces gens-là pour ça, que ça se fasse. Et en fait, ils venaient de recevoir une subvention de 25 000 euros. Et ils avaient pensé à moi pour m'embaucher. Et du coup, j'allais vivre avec les animaux en semi-autonomie, dans la nature, m'occuper des brebis, recevoir un salaire pour ça, avec des gens que j'aimais et avec un projet merveilleux. Donc j'étais parti d'une situation 9 mois plus tôt où j'étais quasiment incapable de faire quoi que ce soit. J'étais drogué, alcoolique, réfugié dans le divertissement, timide, lâche, peureux, la moitié du temps en dépression, et on me proposait ces responsabilités-là en fait. Et ce qui était dingue en fait dans cette histoire, c'est qu'avec l'aide de Dieu, je me sentais capable de faire face à ça. En même temps, j'avais toujours le désir de faire cette école de berger, et je savais que ma vie spirituelle en allant là-bas se ferait tout seul, et que je serais le seul chrétien là-bas. À ce moment-là, je me suis dit que peut-être que Dieu comptait sur moi justement pour amener Jésus là-bas. Après, je me suis dit que j'étais un petit bébé spirituel. Et pour être honnête avec vous, je supportais pas la ville, je supportais pas les gens, je supportais pas mon travail. Et à ce moment-là, en fait, on me donnait l'occasion de ne pas avoir à supporter la ville, de ne pas avoir à supporter les gens, et de ne pas avoir à supporter mon travail. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que si je voulais apprendre auprès des animaux à aimer les humains, c'est parce que c'était trop difficile pour moi d'apprendre à aimer les humains directement, en fait. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on me proposait de fuir tout ça. Donc j'ai jeûné, j'ai veillé, j'ai prié, j'ai demandé conseil à Florac et j'ai prié. Et à ce moment-là, il y a une histoire dans la Bible qui a provoqué un déclic en moi. C'est l'histoire de Lot et d'Abraham. Lot part vivre dans la plaine, Abraham dans les montagnes. Et j'aime beaucoup Lot, mais j'ai décidé de ne pas aller dans la plaine qui ne me confronte pas à mes peurs et lacunes, mais de suivre Abraham, et je me suis réinstallé sur Bordeaux, là où c'était difficile pour moi. Et là, j'ai commencé ma vie chrétienne, donc ma vie d'église, en début juin 2017. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous mettre à part un temps. Je pense à Paul, à Moïse, notamment Moïse qui a été seul à errer dans le désert pendant 40 ans, mais connaissait la route après du coup pour conduire Israël. Enfin, le peuple israélite. Mais du coup, je me suis dit que Dieu voulait vraiment que j'arrête d'être à part dans mon coin. À partir de là, j'ai commencé à apprendre de mes frères et sœurs et plus des brebis, enfin d'autres brebis, quoi. Du coup. Donc ce moment que j'ai passé avec les brebis dans la nature, ça m'a rendu capable de pouvoir m'investir et ça m'a rendu capable d'apprendre directement des gens, je pense. Les brebis m'ont beaucoup enseigné sur l'acceptation de ce que sont les autres, sur mon devoir de les aimer inconditionnellement, pas pour ce que moi je veux qu'ils soient, mais pour ce qu'ils sont eux. Et les brebis, bah, ou les chevaux, ou même les cochons, je pouvais pas les changer, je devais faire avec qui ils étaient, je devais les aimer. Les brebis, je devais les aimer, je devais les soutenir, je devais les soigner, je devais les sauver. Et mon ressenti ne comptait pas, en fait. Donc à ce moment-là, Dieu qui me donnait mon biberon 3 fois par jour et qui me tenait la main pour m'apprendre à marcher, il a commencé à réduire le biberon. Et il a lâché ma main. Il m'a dit, vas-y, avance. Donc j'ai repris le travail que j'avais avant et je me suis mis à marcher. Donc je sais maintenant qu'il était derrière moi, qu'il est toujours derrière moi, comme un père aimant, en train de me surveiller, qu'il est prêt à intervenir s'il le faut. Mais j'ai vécu ça comme si j'étais un bébé et que mon papa ou ma maman me lâchait la main et me laissait marcher pour que j'apprenne. Donc si vous avez vécu ça, boum, aïe, boum, aïe. Et voilà, donc je ne sais pas ce que Dieu fera de moi. Je crois plus que ce qu'il me demande, c'est d'être berger. Mais je sais que l'appel qu'il me réserve, c'est d'être son aide, berger, mais dans l'église. Je ne sais pas de quelle manière il me fera faire ça. Mais je vois ça comme ça. Donc j'aimerais vous lire 2 psaumes maintenant, pour résumer un peu ce que je vous ai raconté. Donc il y a le psaume 25. Que j'étais censé lire avant de raconter mon témoignage.
Pardon ?
Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Je voudrais vous lire un autre psaume. C'est le psaume 23. C'est un peu long. C'est plus court. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindhuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si c'est possible, j'aimerais bien voir un petit passage avec vous. Parce que depuis que j'ai décidé, en fait, du coup, de suivre l'Éternel, de lui donner ma vie, y a pas mal de préoccupations qui me traversent la tête. Et du coup, je veux vous raconter comment un passage a répondu, en fait, à ces questions. Donc, c'est dans le sens où j'aimerais vous lire un verset. Vous connaissez, c'est Matthieu 28, 19, 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, quand je lis ce passage, je le lis d'abord dans le sens où il s'adresse à ses disciples, aux apôtres, à ce moment-là, et je ne le prends pas spécialement pour moi. Mais dans ma compréhension que j'ai dans la parole, je considère que c'est aussi ce que Dieu attend de moi, en fait. Que je partage, que je répande son évangile et que je l'aide à faire de toutes les nations des disciples. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai beaucoup de choses, de blocages, en fait, qui veulent un peu me freiner et m'empêcher de faire ça. J'ai la peur. La peur d'y aller, de parler de lui, d'être rejeté. Je me sens aussi incapable de faire ça, bien évidemment. Je ne me sens pas le droit de parler de lui. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu me rendre la tâche un peu compliquée. Dans ce désir que j'ai de vraiment répandre l'évangile, de parler de lui à tout le monde, j'ai lu un passage dans Luc qui a répondu un peu à toutes ces peurs, tous ces doutes en fait que j'ai en moi. Et j'aimerais partager ce passage dans Luc avec vous. Chapitre 11 et 10. Donc je remets le contexte. À ce moment-là du récit, l'appel à la repentance a été fait, le royaume s'est approché de nous et le salut en la personne de Christ nous est offert. Les disciples abandonnent tout, ils suivent Jésus, des miracles ont lieu, puis Christ commence à enseigner les disciples. Il nous présente le salut et comment il est important de croire en lui par la foi pour être sauvé, et comment c'est sa puissance qui nous sauve quelles que soient les circonstances. Il nous parle du chemin qu'on doit suivre et il nous révèle les mystères de son royaume, le royaume de Dieu. Puis il décide de monter à Jérusalem, là où il va accomplir ce salut que Dieu nous accorde à travers lui. Donc on commence avec le chapitre 10, du coup. Et à partir de là, il envoie ses disciples, 70, annoncer que le royaume de Dieu est proche, dans tous les lieux et toutes les villes où il va passer. Donc, moi, je pense que ma mission première en tant que chrétien, c'est justement d'annoncer son royaume, le salut, possible uniquement parce que Christ est mort, enseveli et ressuscité à la droite du Père. J'aime Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je l'aime de son amour qu'il a mis en moi, pas de mon faux amour égoïste et pas saint. Je l'aime, je veux parler de lui à tous. Je veux que les âmes se tournent vers leur berger. Je veux que les gens soient réconciliés avec lui. Je veux qu'ils reçoivent son amour. Mais j'ai peur. La plupart du temps, je suis paralysé. Je suis loin d'être la personne la plus aimée que je connaisse. Et je parle de plus en plus de lui aux gens qui m'entourent. Donc le problème, c'est que je me considère comme incapable, ou comme n'ayant pas assez d'expérience, ou comme n'ayant pas un témoignage assez fort dans ma vie de tous les jours. Je me sens trop petit pour ça, je suis trop rempli de péchés, j'ai pas la capacité. Mais je sais que toutes ces choses, ce sont des mensonges. Je continue de lire Luc, et je passe par le thème de la prière. Donc je vois Jésus qui prie le Père, puis qui enseigne ses disciples à prier. Et à ce moment-là, où il enseigne la prière à ses disciples, il leur raconte une petite histoire. Et c'est par cette histoire-là que Dieu a répondu à mes doutes, en fait. Donc il leur enseigne la prière. Je pense que cette histoire, à ce moment-là, mais j'en suis pas sûr, je peux dire des bêtises. Je pense que cette histoire à ce moment-là est là pour leur expliquer la puissance transformatrice de la prière, entre autres, qui est selon moi le moyen de ne plus faire soi-même, mais de donner la place à Dieu pour que ce soit lui qui s'en occupe à sa manière. Et après ce moment-là, en fait, dans ma lecture, il y a plein de miracles. Donc je sais pas ce que... Je vais pas faire une exégèse ou essayer de comprendre ce que le texte veut nous dire, mais je vais plus vous partager ce que moi j'ai reçu en fait. Déjà, je suis un miracle, et le salut est un miracle, et je veux voir des miracles, et les miracles, ils viennent pas de moi, ils viennent de Dieu. Alors que je sois incapable ou pas, ça change absolument rien, puisque de toute manière, ça change absolument pas la nature de Dieu. Donc cette petite histoire, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce que je comprends de ce passage, je comprends deux choses. Donc premièrement, je comprends quelque chose pour les gens qui ne sont pas sauvés. Et deuxièmement, je comprends quelque chose pour les gens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas à l'aise avec cette idée que leur mission est d'apporter ce salut aux autres, comme moi par exemple. Donc je comprends qu'il faut importuner Dieu, que c'est lui qui fera et que quand il fait, c'est des miracles qui sont faits. Juste après, parce que juste après j'ai lu plein de miracles, donc ça m'a fait penser à ça. Du coup, prions et intercédons en tout temps, il nous utilisera, il nous donnera sa puissance. On ne sera que des instruments de sa puissance. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de limites. Il pourra sauver les vies qui nous entourent, que cela nous soit visible ou que cela ne nous soit pas visible. Donc je vais encourager premièrement les jeunes dans le ministère à faire confiance à Dieu à 100%, à ne pas se limiter. Souvent on se limite parce qu'on regarde un peu à nous, à cause de notre égoïsme. On regarde à nous, on ne regarde pas à Dieu. Et du coup on se limite. Donc c'est pas ce qu'on peut faire qui compte, c'est ce que Dieu peut faire. Et c'est ça qu'on doit regarder. Je pense à Michael, Noémie et moi. On cherche tous les trois à servir Dieu. On cherche à savoir où il nous appelle. On cherche à savoir ce qui nous attend de nous. On cherche aussi à savoir ce pourquoi on est le mieux qualifié. Mais Dieu ne nous demande pas d'être qualifié. Il nous demande de l'importuner pour que lui nous donne la nourriture qu'on ira donner aux gens qui frappent à notre porte. Je veux encourager aussi ceux qui ne sont pas sauvés. Je ne sais jamais si je vais voir quelqu'un ou pas, qui a réellement donné sa vie à Dieu ou pas. Donc si quelqu'un n'a pas entièrement donné sa vie à Dieu, Dieu est puissant et il transforme. Si on lui demande son aide, qu'on s'abandonne à lui et qu'on l'importune, qu'on continue, qu'on persévère, qu'on continue de crier à lui, il nous transformera. Il vous transformera qui que vous soyez parce que c'est promis dans le passage que je viens de lire. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et enfin, je veux encourager tous les autres fidèles qui marchent avec Dieu dans les joies, dans les peines, dans les difficultés, dans les facilités. Je veux tous vous encourager à importuner Dieu chaque jour, à prier, à intercéder et à dépendre entièrement de lui par sa grâce et pour l'éternité. Merci. Quelqu'un veut prier.
Que la présence de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Sois-toi ton pardon.